Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a commencé il y a maintenant 5 mois. Mais cette semaine, c'est un moment crucial qui se jouait. L'audition de Salah Abdeslam, seul survivant du commando djihadiste, commando qui tuera 131 personnes à Paris ce sombre vendredi soir de novembre. Au-delà de n'éprouver aucun regret, Salah Abdeslam a assuré ne représenter aucun danger pour la société. Il assure d'ailleurs qu'il n'est coupable de rien. Alors, ultime provocation ou stratégie perverse, à quoi joue exactement Salah Abdeslam? Le décryptage avec nos invités dans un instant, mais d'abord retour sur cette audition tellement attendue avec Elisa Tran.
Je ne suis pas un danger pour la société. Espérant probablement voir sa peine réduite, Salah Abdeslam a tenté cette semaine de minimiser son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015.
Je n'ai tué ni blessé personne. Même une égratignure, je ne l'ai pas faite.
Il nous dit qu'il a renoncé le soir même et que donc ça fait de lui quelqu'un qui n'a pas de sang sur les mains, qui est une assertion dont on pourrait discuter assez longtemps, sachant qu'il a enfilé cette ceinture, qu'il est monté dans une voiture et qu'il a conduit des kamikazes dont il savait qu'ils allaient se faire sauter.
Le seul rescapé du commando se permet ensuite de critiquer la sévérité des peines infligées aux terroristes.
Les personnes qui n'ont tué personne, on ne peut pas les condamner comme si on avait les têtes de l'État islamique, ce n'est pas possible.
Terminant son propos par une sorte d'avertissement.
D'une certaine manière, il fait un chantage à la cour en disant « si vous condamnez lourdement ceux qui n'ont pas commis d'attentat ou ceux qui sont arrêtés, eh bien, ils ne s'arrêteront plus la prochaine fois ».
C'est là toute l'ambivalence du discours de Salah Abdeslam. Le trentenaire assume son allégeance à Daesh. Le djihadisme, un combat légitime selon lui.
Il vient réitérer ses croyances, qui sont des croyances fanatiques, d'allégeance à l'État islamique, et il vient donner un certain nombre de justifications. Lorsque le président lui pose la question en disant « mais il y a des exactions dans l'État islamique, est-ce que vous condamnez ?» Bah écoutez, il est dans l'esquive.
Salah Abdeslam esquive également lorsque les questions s'approchent trop près des faits. On parlera de ça plus tard, hostile asséné au président. Sera-t-il alors plus loquace ? Le prochain interrogatoire de Salah Abdeslam est prévu début mars.
Audition extrêmement attendue et on va essayer de la décrypter avec nos invités. Gladys Laffitte, bonjour. Vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Vous suivez ce procès de près. Maître Samia Maktouf, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes avocate de plusieurs victimes des attentats du 13 novembre. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot de Salah Abdeslam et du visage qu'il a présenté. Il représente, il incarne pour la France entière et tous les Français l'horreur, l'angoisse, la terreur. Quel visage il a présenté lors de son audition ?
Il était calme, c'était quelqu'un de posé, il s'exprimait de manière très claire, avec un discours structuré. On était assez loin des effusions de colère qu'on a pu voir en tout début d'audience. Alors peut-être que ça résultait du fait que voilà, il sortait d'isolement depuis 5 ans et demi, il était plus en colère. Là, on l'a senti beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Il s'adresse de manière très polie à la cour, aussi aux avocats des divers partis. Voilà, il est dans un visage... En tout cas, il donne de lui-même et il est beaucoup moins dans la colère qu'avant.
Moins de colère, de temps en temps, des petites pointes d'insolence.
Je voudrais d'abord rappeler, si vous permettez, que c'est chemise blanche et barbe taillée qu'il s'est présenté devant cette cour, qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne respecte pas. Il est, comme il a dit lui-même, dans une totale rupture avec la justice des personnes, puisqu'il ne reconnaît et qu'il ne se remet qu'à la justice d'Allah. Donc ça, c'est important de le rappeler, puisqu'il essaye de gérer ses contradictions. C'est quelqu'un qui s'assume en tant que combattant de l'organisation terroriste, l'État islamique, tout en essayant d'insinuer qu'il n'aurait pas actionné son gilet explosif.
Essayez de comprendre. D'abord, vous avez raison d'insister sur ça. Il redit très clairement « j'aime l'État islamique, je le soutiens ». Ça, c'est très clair. Comment il l'explique ? Comment il livre sa vision du monde sur ce point-là ?
Écoutez, d'abord, je voudrais dire qu'elle a toujours été la même. C'est un combattant qui se déclare, qui s'exprime. Ce n'est à aucun moment un repenti. Il est plutôt dans une stratégie de négociation de peine qu'autre chose. C'est quelqu'un qui explique comment il voit le monde. Pour lui, c'est un monde où la charia, la loi de son Dieu, devra régner sur tout le monde, y compris ici en Europe, partout, et qu'il s'en défend. Il s'en défend, il excuse, il explique, il n'est pas en rupture par rapport aux exactions commises par cette organisation terroriste, puisqu'il nous renvoie, nous, occidentaux, à nos propres, comme il dit lui, exactions qui auraient été effectuées par d'autres personnes avant. Là, il dit, vous avez exécuté vos rois, la peine de mort, lorsqu'elle a été abolie, d'ailleurs il semble être bien informé, la majorité de la population française était contre l'abolition de la mort. Donc c'est un État que je défends, qui a ses valeurs, qui a ses règles, ses lois, et je me dois de les respecter de la même manière que vous, occidentaux, vous respectez vos valeurs. Voyez cette rupture entre deux mondes.
C'est très intéressant parce qu'il y a donc quelqu'un qui se revendique pleinement de l'État islamique et de sa conception de sa philosophie de la vie, si on peut appeler ça comme ça. Et vous souleviez le paradoxe qui est qu'on pourrait dire, dans ce cas-là, il joue le rôle du combattant, et pas du tout. Il y a cette fameuse ceinture d'explosifs qui n'a pas explosé et il livre sa version des faits. Je dis bien sa version des faits.
Exactement, c'est ce qu'il dit, en tout cas, ce qu'il laisse entendre très clairement. Il ne dit pas non plus clairement « je n'ai pas déclenché ma ceinture d'explosifs ». Donc on est dans un demi-aveu qui laisse entendre qu'il n'a pas déclenché sa ceinture.
Volontairement.
On sait aussi qu'il y aurait un défaut sur le système de mise à feu de cette ceinture. Ça ne veut pas dire que les deux versions s'opposent. Elles peuvent être complémentaires. On va voir ça avec un expert, puisque dans quelques semaines, il y a un expert qui a expertisé cette ceinture explosive qui va venir devant la cour et qui va parler de ce système de mise à feu. Mais en tout cas, il est dans une démarche de minimiser ses actes. Ça, c'est une certitude en disant « j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait ». Alors encore une fois, ce n'est pas dit comme ça, c'est un tout petit peu plus subtil. Il dit « les gens qui ont renoncé, on peut se dire « j'aurais pu aller jusqu'au bout ». En fait, sa logique de pensée, c'est de dire voilà, si on a fait marche arrière, pourquoi on serait condamné comme si on était la tête de l'État islamique? Ça va donner un mauvais message pour les autres qui pourraient être avec 50 kilos d'explosifs dans le métro et faire marche arrière. Ils vont pas vouloir, ça va les encourager finalement à aller au bout. Donc voilà, il est dans un « on » un peu générique, tout en laissant sous-entendre très très clairement que lui, il se trouve dans ce cas de figure.
Quand il essaye de dire à demi-mot, finalement, je n'ai rien fait, je ne suis coupable de rien, ce qu'il va dire.
Je n'ai blessé personne, je n'ai même pas égratigné quelqu'un.
C'est exactement ce qu'il a dit, vous avez raison de le rappeler. Il fait quoi? Il essaye de minimiser la peine qu'il aura? Il essaye de se construire un personnage?
Il est dans la négociation de la peine. La négociation pour... il sait très bien qu'il ne pourra pas échapper à l'association, l'inculpation d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour autant, s'il peut ne pas avoir la perpétuité, la complicité l'incrimination de l'assassinat, il aura sauvé un peu sa peau. Il est, encore une fois, comme il a été depuis son arrestation, dans une stratégie de défense qui consiste à se faire passer pour quelqu'un qui, à la rigueur, en l'insinuant, serait un déserteur. Il aurait déserté, il n'aurait pas appuyé sur la gâchette ni actionné son gilet, l'insinuant, parce qu'il ne l'a jamais dit de manière très claire. Cela pour essayer de faire oublier, peut-être à l'opinion publique d'abord, parce qu'il rappelle, encore une fois, c'est des éléments de l'ambiance de l'audience. Il reconnaît, il dit « vous êtes venus nombreux à m'écouter ». Donc il a cette tribune. Et il en bénéficie de manière magistrale, il faut le dire. Alors, il essaie de faire oublier que c'est quand même lui qui a appartenu à un commando, ce commando de la terreur, de la mort. C'est lui qui est allé les chercher, les membres de ce commando, sur le trajet en Allemagne et ailleurs. C'est lui qui les a déposés dans les planques, c'est lui qui a loué les voitures. Donc, en fait, c'est comme si il voudrait bien accepter une partie pour alléger sa peine. Il est dans la négociation de la peine pour faire oublier un peu ce rôle qu'il ne veut pas encaisser en disant je ne joue pas le rôle le plus important.
Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'ambiance de la salle d'audience. Je voudrais qu'on élargisse un tout petit peu le spectre. Ça fait 5 mois que ce procès dure, il va encore durer plusieurs mois. Quand Salah Abdeslam se présente, qu'est-ce qui se passe dans la salle?
C'est assez silencieux. Effectivement, on attend tous de savoir déjà s'il va parler. Parce que c'est vrai qu'il ne s'est pas du tout exprimé pendant l'instruction. Donc ça, c'était déjà une première interrogation. Ensuite, s'il parle, quel type de discours il va avoir? Est-ce que c'était comme au début de l'audience, dans plutôt un discours de propagande? Donc c'est vrai que dans la salle d'audience, c'est très calme, il y a une tension qui est palpable et il y a un grand respect de la part de tous les bancs pour attendre de savoir ce qui va se passer. Après, c'est pas parce que c'est Salah Abdeslam, c'est-à-dire que le respect, il est là tous les jours. Les parties civiles sont attentives tous les jours. Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de presse que d'habitude et un peu plus de parties civiles, mais c'est un respect qui existe chaque jour. Mais c'est vrai qu'on se demandait s'il allait parler. C'était, je pense, l'interrogation principale.
Une question qui va être un peu plus personnelle pour conclure. Quand on couvre ce procès en tant que journaliste avec l'horreur qu'a été ce 13 novembre, c'est dur au bout de 5 mois ?
C'est toujours compliqué de répondre à cette question parce que nous, on n'est pas là pour dire si c'est dur pour nous ou pas. On n'a pas vécu ça, on n'est pas victime, on n'est pas survivant, on n'a pas perdu un proche. Nous, on est là pour retranscrire ce qui se passe, retranscrire des émotions. Si on est touché par des émotions, je pense que c'est important de les recevoir et de pouvoir les donner à mes auditeurs, en l'occurrence pour la radio. C'est important. Après, c'est un marathon. Je pense que Maître Maktouf peut en témoigner aussi. C'est un marathon, c'est des journées qui sont denses. Il y a beaucoup d'accusations. Le dossier est tentaculaire, donc c'est aussi sur ce côté-là que ça peut être dur au sens professionnel du terme.
Maître, vous portez le combat, vous devez soutenir les victimes que vous représentez. Comment vous le vivez et comment les familles que vous accompagnez vivent ces 5 mois de procès ?
D'abord, je voudrais dire que c'est extrêmement dur et pénible pour les victimes qui ont perdu des êtres chers. C'est d'abord pour eux et c'est à eux que nous pensons et c'est très important de le rappeler. Ça fait 5 ans, enfin plus de 5 ans, 6 ans que j'accompagne ces 42 victimes et c'est extrêmement important pour ces victimes que ce procès se tienne, même si on n'attendait rien. Encore une fois, on n'attend rien de Salah Abdeslam parce qu'il faut le rappeler, l'instruction a fait avancer les choses, que ce soit les enquêteurs belges ou français, nous ont fait avancer cette procédure et que Salah Abdeslam, en fait, on a l'impression qu'il choisit de la procédure ce qu'il veut infirmer ou confirmer. Mais c'est un procès marathon, mais ça reste un procès hors norme. Et pour reprendre, pour finir, les propos du président de cette cour d'assises, c'est parce qu'il est hors norme et qu'il doit aussi respecter les normes et parmi ces normes, le respect des droits de la défense.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus nous éclairer sur cette audition, évidemment, qui était très attendue, importante dans ce procès qu'on va continuer à suivre. Merci beaucoup et bienvenue sur le plateau d'Affaires Suivantes. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant pour revenir sur les dernières révélations dans l'affaire Delphine Jubilard. De nouvelles révélations encore. Les enquêteurs s'intéressent désormais à une voiture que Cédric Jubilard aurait utilisée pour transporter le corps de sa compagne, voiture dans laquelle des traces de sang ont été découvertes. On vous donne tous les détails et toutes dernières informations dans un instant. h 23, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et à la une, l'affaire Jubilard. Les enquêteurs tiennent-ils enfin une piste crédible ? Des expertises sont en cours sur des traces de sang retrouvées dans une Peugeot blanche que Cédric Jubilard aurait eu tout le loisir d'utiliser pour transporter le corps de sa compagne. Est-ce enfin une avancée réelle dans cette affaire ? Ou une fausse piste, entendue en tout cas pour la 3e fois vendredi par les juges. Cédric Jubilard réfute cette hypothèse, continue de clamer son innocence. Alors sommes-nous face à un moment clé de l'instruction ? Ces traces de sang peuvent-elles tout changer ? Les dernières informations, le décryptage est évidemment avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, les derniers éléments de la semaine avec Elisa Tranin.
Le codétenu a raconté n'importe quoi. Voilà ce qu'a répondu Cédric Jubilard aux questions des juges lors de sa 3e audition vendredi. En décembre dernier, son ancien voisin de cellule, surnommé Marco, a raconté aux enquêteurs que Cédric Jubilard lui a avoué le meurtre de sa femme. Selon nos confrères du Parisien, il leur a fourni ce détail quant au transport du corps de Delphine.
Cédric aurait utilisé une voiture blanche. Il m'a dit qu'il n'avait pas utilisé sa propre voiture pour la transporter. Il m'a dit qu'il n'allait pas être assez stupide pour utiliser sa propre voiture.
Les gendarmes s'intéressent alors de plus près à un voisin et ami de Cédric, propriétaire d'une Peugeot 306 blanche de ce type. En audition, cet homme avoue laisser sa porte ouverte et ses clés de voiture accessibles. Selon lui, Cédric a tout à fait pu lui emprunter sa voiture en pleine nuit.
Cédric Jubilard, il a l'habitude parfois de s'introduire dans la maison de cet homme sans pour autant que cet ami soit au courant de ça.
Dans la voiture, des traces de sang ont été relevées, mais impossible de déterminer pour l'instant s'il s'agit de sang humain ou animal. Des analyses plus approfondies sont en cours.
Alors, sommes-nous à un moment clé de l'instruction de l'affaire Jubilard? On va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Brice Vidal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, coordinateur de la rédaction de 100% Radio. Vous suivez cette affaire de près. Merci d'être avec nous. Le général François Daoust, bonjour. Soyez le bienvenu, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et du pôle judiciaire de la Gendarmerie. Aujourd'hui, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Et Jean-Alphonse Richard, on est ravis de vous retrouver. Bonjour. Titre moins long, mais présentateur de l'heure du crime sur RTL. Ça claque aussi, ça marche. On va revenir évidemment sur ces dernières informations. Quel crédit leur apporter? Est-ce qu'elles changent la donne ou pas? Et puis on va aussi entendre la voix de Cédric Jubilard. C'est une écoute qu'a dévoilée cette semaine BFM TV. D'abord, peut-être l'importance de ces traces de sang, Jean-Alphonse. On y vient à ces traces de sang et à cette voiture via toujours le même, le fameux codétenu auquel aurait parlé Cédric Jubilard.
Et j'ai envie de dire que c'est bien le problème, parce que dans ce dossier, il y a quasiment aujourd'hui une source unique. C'est ce fameux codétenu qui fait des révélations, en tout cas qui dit avoir recueilli ses confidences. On en est là avec une voiture qui aurait pu transporter le corps de Delphine. Pour tout vous dire, ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Donc, tout simplement parce que les traces de sang en question, depuis combien de temps sont-elles là? Est-ce que c'est bien du sang humain, animal? Bon, a priori c'est du sang humain, mais il va falloir détecter ce qu'il en est exactement. L'ADN, on dit qu'il ne matchera que peut-être dans quelques semaines, etc. En général, ça va un peu plus vite. Donc, on peut se poser des questions là-dessus. Et puis, on peut aussi se poser des questions sur le modus operandi, tout simplement. Parce que ça paraît extrêmement compliqué d'aller, pour Cédric Jubilard, chercher cette voiture qui est à 2 km de chez lui, transporter le corps, etc. Je pense qu'au fond, s'il y a un scénario, il est plus simple que celui-là. Donc voilà, moi je ne mettrai pas une pièce, comme on dit, sur ce scénario avec la fameuse voiture blanche.
Brice Vidal, vous qui connaissez bien les lieux, est-ce que c'est techniquement envisageable que Cédric Jubilard ait effectivement fait ces quelques kilomètres pour aller chercher cette voiture, transporter le corps de Delphine?
Ouais, c'est difficile de dire. Est-ce que la thèse de la voiture blanche tient? Ça, c'est les enquêteurs le diront, on verra. Moi, ce que je peux peut-être vous dire, c'est qu'en revanche, les enquêteurs, quand ils trouvent ce sang, ils le passent à ce qu'on appelle le Blue Star. Et ce qu'on sait, c'est que le Blue Star, ça discrimine le sang humain du sang animal. Or, si vraiment ça avait été du sang humain repéré à ce moment-là, je pense qu'on aurait été beaucoup plus vite à la phase analyse auprès de l'IGNA, je pense. Je ne sais pas, Général, si c'est bien l'IGNA qui va vérifier ce type d'analyse. Mais si ça a été fait en décembre, on aurait basculé très, très vite, a priori, sur une confirmation des analyses. Donc, selon moi, vraisemblablement, les enquêteurs, l'IRCGN, a dû quand même objectiver le fait qu'il s'agissait très probablement de sang animal. Et après, on fait des vérifications avec l'ADN pour être sûr qu'il n'y a pas une goutte de sang humain dans le sang animal. Voilà ce qu'on peut dire sur cette thèse à ce stade. Et ça, il suffit effectivement de prendre l'information brute. Hein. On dit, voilà, c'était en décembre que ces analyses de gendarmerie ont été faites. À ce moment-là, les gendarmes, ils sont a priori capables de discriminer si c'est sang humain ou sang animal, ou en tout cas au moins à 80-90%.
Vous voyez tous ces regards qui convergent vers vous, oui, Général, oui. Vous qui avez dirigé l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Donc, ce type de recherche, ce que dit Brice Vidal est intéressant. C'est-à-dire que on aurait dû savoir plus tôt. Comment vous analysez ?
L'analyse, c'est qu'il y a des éléments qui sont trouvés, qui sont versés au dossier, qui sont donnés aux magistrats, et les magistrats jugent de l'opportunité quand est-ce qu'on doit faire les expertises, les analyses, par rapport aux autres éléments de l'enquête. Là, dans la recherche d'éléments matériels, on revient sur des éléments qui avaient été simplement mis de côté un temps pour d'autres priorités, la recherche du corps par exemple, d'autres analyses en cours, pour dire fermons définitivement cette porte, soyons sûrs qu'effectivement, il n'y a pas d'éléments sanguins propres à la victime, à la disparue. C'est comme ça que ça avance. Et après, sachant que c'est du sang qui a été prélevé il y a un certain temps, eh bien, on travaille, c'est la science, hein, le temps du scientifique n'est pas le temps du médiatique, et les analyses, eh bien, se feront vraiment avec sérieux, ça c'est évident, mais avec toute la précision nécessaire pour éviter de perdre des éléments d'information en cas de présence d'ADN humain.
Donc c'est normal qu'on ait un résultat que fin mars.
Voilà, ça c'est le laboratoire qui doit rencontrer des difficultés analytiques, pas dans les appareillages, par rapport à l'échantillonnage, c'est est-ce qu'il y a des champignons, est-ce qu'il y a des bactéries qui se sont greffées dessus, auquel cas, eh bien, là, la recherche d'ADN et le passage en PCR pour justement sortir le profil est beaucoup plus long.
Jean-Alphonse, vous nous dites ne pas croire, a priori, à cette hypothèse. Ne pas croire, je n'ai pas dit que c'était la vérité.
Vous serez peut-être démenti.
Vous serez peut-être démenti. Mais si, au regard de votre intuition, pourquoi tout d'un coup, on se focalise autant sur cette voiture et pourquoi les enquêteurs en font aujourd'hui un point important de l'enquête?
Mais c'est extrêmement simple parce qu'il y a zéro élément matériel dans cette histoire.
Donc, faute de mieux.
Faute de mieux, mais ils sont obligés aussi. Lorsque vous avez vous ne pouvez pas passer à côté. Lorsque vous avez des déclarations d'un témoin, qui qu'il soit d'ailleurs, qui avance de tels propos, à savoir une voiture blanche, donc on sait que Cédric Jubilard avait une voiture blanche, mais qui était hors service, donc ça ne pouvait pas être celle-là. Ils vont trouver cette voiture, il faut absolument l'analyser. On ne peut pas faire l'économie de cette analyse. Et elle est d'autant plus analysée qu'il y a ces traces de sang, ces quelques 7 traces de sang qui ont été découvertes dans cette voiture. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Et puis également, il y a des éléments pileux qui vont être analysés. Ça, c'est intéressant aussi et c'est important parce qu'on sait très bien qu'avec le moindre petit élément, on pourra peut-être avoir une trace, par exemple, de Delphine Jubilard. Si tel était le cas, on sait qu'elle n'empruntait pas cette voiture. Donc là, évidemment, ça changera la donne. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais quand vous demandez pourquoi... on cherche et pourquoi on va analyser jusqu'au bout un véhicule, c'est tout simplement à la recherche de l'élément matériel qui manque cruellement dans ce dossier.
Ça veut dire que là, on peut quand même être à un moment clé. S'il y a mélangé au sang animal une trace de sang de Delphine Jubilard ou que c'est un cheveu qui est retrouvé, ça change absolument tout dans cette affaire.
Ah, le dossier bascule. Ouais. Le dossier basculerait. Mais à ce stade, rien ne dit que les enquêteurs aient vraiment cette piste comme estiment que cette piste est vraiment prioritaire ou incontournable. À ce stade, un journal l'affirme. Est-ce que les enquêteurs vraiment l'affirment? Je ne sais pas.
Général, on est dans une démarche classique d'enquête parce qu'il ne faut pas éviter, évidemment, passer à côté d'une piste, mais c'est vrai qu'ils n'ont que ça.
Alors, de ce que nous en savons, ils n'ont que ça. Voilà.
Là, sauf que le secret des enquêteurs qui garderaient des billes, ça commence à être long.
Alors, il y a ce qui est versé au dossier, il y a ce qui est ce qui est connu des magistrats et que les avocats peuvent connaître aussi, avocats qui sont dans leur rôle de défense et la présomption d'innocence, c'est là pour nous le rappeler. Mais ils ne vont pas forcément mettre en avant tout ce qui est à l'encontre et qui vient en contradiction des affirmations du mis en cause. Donc on entend un point de vue, on n'entend pas celui forcément des magistrats, et on ne l'a que par ricochet, par la chambre de l'instruction, qui refuse systématiquement la remise en liberté.
Et remarquez, Philippe, que cette thèse de la voiture blanche, à la suite du dernier interrogatoire de Cédric Jubilard, la défense s'en sert pour dire astucieusement, mais les gendarmes, ils sont en train de jouer au cluedo. Une fois, c'est la voiture bleue, une fois, c'est la blanche, une fois, c'est... Donc, cette histoire de voiture et de gouttes de sang, à qui ça profite aujourd'hui?
Mais c'est la question. On est dans une valse à trois temps dans ce dossier. C'est comme ça. C'est-à-dire que le premier temps, c'est Cédric Jubilard qui mène la valse aujourd'hui. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est lui qui aurait... les clés de ce mystère. Donc on est obligé de le suivre, on est obligé d'écouter la moindre de ses paroles. La deuxième valse, ce sont les juges. Et les juges ont un temps d'avance sur le dossier. C'est-à-dire que les deux juges d'instruction aujourd'hui ne sont pas censés donner dans l'immédiat les éléments qu'elles possèdent. Donc, et le troisième temps, ce sont les avocats, les parties, la partie civile et puis les avocats de Cédric Jubilard, qui, eux, n'ont pas forcément accès directement au dossier. Donc là, on est toujours pris dans ce triptyque. Et encore une fois, on est obligé de s'en remettre à Cédric Jubilard. Il faudrait trouver un élément matériel pour que ce dossier, enfin, puisse se débloquer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Je rebondis sur le premier temps de votre valse. On est obligé d'écouter Cédric Jubilard. Justement, cette semaine, BFM TV vous a dévoilé un enregistrement sonore entre Cédric Jubilard et des proches de Delphine qui venaient lui demander des comptes. On est en avril 2021, après la mort de Delphine Jubilard. Et écoutez bien, d'abord la voix de Cédric Jubilard qu'on ne connaissait pas et les mots employés par Cédric Jubilard, notamment pour justifier sa responsabilité dans la disparition de Delphine Jubilard.
Il n'y a pas de soucis et des doutes. Sauf que comme tu peux le voir, il n'y a pas de preuves. Donc avant de faire des grands blablabla, on redescend sur terre et on cherche les preuves. J'ai rien à cacher. Je l'ai déjà dit à ta femme. J'ai rien à cacher. Je m'en bats les couilles.
Bon, langage fleuri de Cédric Jubilard. J'ai rien à cacher. Il n'y a pas de preuves. C'est assez curieux de la part d'un mari qui a perdu sa femme de dire il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Et il est comme ça depuis le début, Cédric Jubilard. C'est-à-dire qu'il est sur ses positions, c'est une espèce de forteresse. Il s'est pas fabriqué un personnage, parce que je pense qu'il est naturellement comme ça, et que finalement, il attend qu'une chose, c'est que, si au cas où il aurait commis l'irréparable, c'est qu'on lui emmène comme ça des preuves, des éléments sur lesquels il pourrait discuter. Là, il joue sur du billard. Qui plus est, il y a les déclarations qu'il aurait faites à ce co-détenu qui sème le trouble. Donc, depuis le début, c'est comme ça. Dites-moi que je suis coupable, montrez-moi les preuves, montrez-moi un corps, montrez-moi un élément, et là, peut-être on discutera. Mais en l'état, je suis innocent, et donc voilà, il n'y a pas de preuves.
Ça correspond à sa personnalité, à ce qu'on sait de lui ?
C'est un garçon immature, c'est ses avocats qui le disaient même. C'est quelqu'un qui est provocateur, ça on l'a vu depuis le début de cette affaire criminelle, c'est quelqu'un qui est présumé innocent. Il ne faut pas l'oublier aussi. Je pense qu'il y a une pression terrible. Il y a la solitude de la prison, de l'isolement. Isolement qui est aussi probablement fait pour qu'il ne soit pas en danger. Parce que l'univers carcéral, ce n'est pas très poétique. Quoi. Donc voilà. Après, j'ai du mal à m'exprimer sur quelqu'un qui aujourd'hui est en prison, qui doit être aussi dans une situation difficile. Et dont ses avocats clament qu'il n'a rien fait et que voilà, ce garçon il est présumé innocent, il faut pas l'oublier. Mais il a un comportement qui ressemble pas à un comportement d'un innocent.
Alors justement, avant de vous entendre là-dessus, j'aimerais qu'on écoute un deuxième extrait de cet enregistrement et il parle cette fois des fouilles puisque les amis Delphine lui disent voilà, il faut refaire des fouilles, notamment à Cagnac, il faut fouiller. Écoutez sa réaction.
Chercher dans Cagnac, je ne sais pas ce que vous allez chercher. On non, a été 5000, enfin 1000-2000 à faire à la battue. Je pense que Cagnac, il n'y a plus rien à fouiller.
On voit que les fouilles, ça l'agace. Visiblement, les fouilles à Cagnac. Général, il est présumé innocent et il sait bien de le rappeler, comme le disait Brice Vidal à l'instant. Mais il y a évidemment un comportement qui interroge. Quand on mène une enquête, on regarde aussi cela.
Ah, le comportement est important. Mais il faut se méfier des impressions d'un comportement. Vous pouvez avoir un comportement hésitant qui a tendance à cacher certaines choses. Et du coup, tout se focalise sur un tel comportement. Alors qu'en fait, la personne elle avait quelque chose à cacher dans sa vie privée qui n'avait rien à voir avec l'affaire criminelle. Il n'empêche que la réaction de la personne est une réaction dont le comportement devient automatiquement suspect. Donc là-dessus, oui, le comportement interroge. Est-ce qu'il est lié à la pression que tout le monde lui met ou est-ce qu'il est lié réellement à une action criminelle dont il aurait pu être l'auteur ? Là, je rejoins mon voisin en ce sens que la présomption d'innocence nous oblige à rester prudents dans les déclarations que nous pourrions faire. Mais c'est sûr que les fouilles, ça agace. Est-ce qu'il veut dire qu'il faut aller fouiller ailleurs parce qu'on a tout fait sur Cagnac et rechercher ma femme, aller la voir, aller sur d'autres contrées parce que je veux la retrouver ? C'est pas le sentiment que l'on a quand on l'écoute. On a l'impression que effectivement, il est agacé. Mais pourquoi ? Ça, c'est encore à savoir.
Jean-Alphonse, il a été entendu vendredi par les juges. Rien n'en est ressorti de probant. Qu'est-ce qui va se passer encore maintenant ?
Je pense que de toute façon, les vérifications vont continuer. Il y a cette fameuse histoire d'ADN et puis ces éléments pileux qui ont été retrouvés dans la voiture qui vont être analysés. Donc ça sera important, ne serait-ce que pour fermer une nouvelle fois une porte. Ensuite, il y a toujours des témoignages qui sont étudiés dans le dossier. Et je pense qu'il va y avoir à nouveau des personnes qui vont être réentendues, parce que c'est aussi le jeu de réentendre des gens 2 mois, 3 mois après. C'est très important dans une affaire parce que la mémoire est évolutive et la mémoire change. Donc, il peut y avoir encore des recherches, etc. Et puis ensuite, il va bien falloir s'acheminer vers la fin de ce dossier. Je ne dis pas l'épilogue, mais je dis la fin technique, c'est-à-dire un renvoi ou non aux assises. Donc ça va prendre plusieurs mois. Il y aura des discussions là-dessus. Il y aura certainement des appels qui vont être interjetés. Donc, on est très, très loin encore de l'épilogue de l'affaire Jubilard. Très, très loin.
Et on continuera évidemment à la suivre de près avec vous trois. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes une nouvelle fois pour nous aider à suivre cette affaire et ses nombreux rebondissements. Tout de suite, c'est le procès de la semaine. approche-t-on progressivement de la vérité? Un procès d'assises est toujours fait de moments forts et intenses. Et bien la deuxième semaine du procès de Nordal Le Landais n'a pas dérogé à la règle. Le maître chien de 38 ans a été cette semaine ébranlé, notamment par la sœur de Maëlys, Colline, 16 ans, qui lui a posé des questions les yeux dans les yeux. Nordal Le Landais n'a pas craqué. Il n'a toujours pas précisément dit ce qu'il a fait à Maëlys, même s'il a reconnu vendredi l'avoir volontairement tué. Les derniers secrets de Nordal Le Landais avec Elisa Trana.
Nordal Le Landais ne parle que confronté à des preuves matérielles. L'ancien maître chien a fini par avouer le meurtre de Maëlys après la découverte d'une minuscule tache de sang de la fillette dans le coffre de sa voiture. Seulement des preuves, la justice en a peu. Nordal Le Landais s'est employé à détruire d'éventuels indices, comme ce téléphone portable brisé devant l'un de ses amis juste après sa première garde à vue.
J'ai interpellé Nordal Le Landais sur ce téléphone qu'il a jeté, qu'il a cassé d'abord, qu'il a brisé très lourdement avec une pierre et que l'un de ses amis donc a jeté dans le lac du Bourget. Je suppose qu'il y avait des preuves extrêmement compromettantes des dernières heures vécues par Maëlys Darrojo.
L'autopsie du corps de la fillette, retrouvée 6 mois après les faits, n'a pu révéler ce qu'il s'est réellement passé la nuit du 26 au 27 août 2017. La dépouille a été dégradée par le temps et les animaux sauvages. Mais étrange découverte des scientifiques, le bas de la robe de Maëlys et une mèche de cheveux ont été coupés. Nordal Le Landais a assuré qu'il n'y était pour rien.
Cette mèche de cheveux, il est clair, il est établi qu'elle a été coupée mécaniquement, sciemment, par un objet tranchant. Ça, c'est un élément objectif du dossier. Question à Nordal Le Landais, est-ce que vous avez évolué dans votre position? Est-ce que vous avez eu un rôle quelconque? Il répond non. Donc sur la forme, il est ferme, mais sur le fond, il ne donne pas de version alternative de nature à expliquer cet élément objectif du dossier.
Au moins 3 fractures au niveau de la tête ont été relevées. Le suspect reconnu avoir frappé la petite fille, il nie en revanche l'avoir agressée sexuellement. Sur ce point, aucun élément matériel ne peut contester sa version.
Et pour décrypter cette nouvelle semaine de procès, Laurent Valdiguier, bonjour. Vous êtes journaliste d'Investigation Magazine Marianne, vous suivez ce procès. Et Dominique Verdaillon, bonjour, ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste et chroniqueur judiciaire. Il reste un mystère toujours dans cette affaire. Une chose qu'il n'a pas dite, c'est à savoir s'il avait commis une agression sexuelle sur Maëlys. C'est encore ce qu'il reste à mettre au jour?
Oui, c'est le grand secret de toute cette nuit depuis le début sur lequel Nordal Le Landais a toujours nié toute agression sexuelle sur la petite Maëlys. Et il le nie d'autant plus que quand on a retrouvé les restes de l'enfant 6 mois plus tard, le légiste est encore venu, on a retrouvé un squelette. Et donc il n'y a pas de preuve possible permettant d'accréditer cette hypothèse. Mais enfin, on comprend bien. Ça, on l'a compris dans cette audience, que quand il enlève la petite fille à 2h46 du matin alors qu'il ne la connaît pas et qu'il coupe son téléphone portable en sortant, en quittant la salle des fêtes, on comprend bien qu'il y a un mobile sexuel.
On a quand même 2 éléments troublants qu'on rappelait là. Le fait qu'après sa première audition, il va détruire son téléphone portable et il ne va pas le détruire, nous raconte son ami durant cette semaine de procès, de manière, j'allais dire, facile ou légère. Il va le détruire avec des pierres, il va le jeter au fond d'un lac. Puis il y a cette mèche de cheveux coupée sur Maëlys. Est-ce qu'on a là des signes similaires à d'autres affaires où on se dit on a quand même des symptômes d'un pédophile?
On a plutôt, en tout cas, le profil d'un prédateur sexuel. N'oublions pas qu'il a été condamné déjà à 20 ans pour le meurtre d'un caporal. Mais on sait quel était, entre guillemets, son mobile. C'est aujourd'hui l'image d'un prédateur sexuel, pas du tout d'un tueur en série. Alors après, il y a la difficulté, qui est évidemment la difficulté à la fois de la cour d'assises et de l'avocat général, c'est qu'il n'est poursuivi que, entre guillemets, enlèvement, séquestration et meurtre, puisque, comme vient de le dire Laurent, il n'y a pas la preuve de ce qui était la finalité de son crime. Ça a évidemment une importance importante. Ça a une importance pour les parents de Maëlys. Ça a aussi une relative importance par rapport au verdict, parce que la peine encourue n'est pas la même. Mais encore une fois, son profil, on le connaît.
D'autant qu'il a enfin reconnu l'avoir volontairement enlevé, volontairement tué. C'est arrivé d'une façon très organisée, vous diriez, avec son avocat.
Oui, mais alors il a un excellent avocat,
Maître Alain Jakubowicz.
Il a le sens de l'audience, il a le génie de le présenter toujours sur le meilleur profil, en revanche de tourner toujours un peu les témoins vers leurs contradictions, etc. Donc il a un excellent avocat, il n'y a pas de doute. Et donc, cette audience de vendredi, le Landais était censé s'expliquer. Ça fait 15 jours que le Landais, voire des années que le Landais promet des explications. Et ces explications de vendredi, elles sont incompréhensibles, désastreuses, contredites par tous les témoignages. Ça n'a pas de sens, ce qu'il raconte. C'est presque la petite fille qui est venue ouvrir la portière de sa voiture quand il partait pour lui dire « j'ai la permission de ma maman, je vais aller voir tes chiens ». Enfin, ça n'a pas de sens. Comme avait dit la maman il y a quelques jours, mais Maëlys, dans notre voiture à nous, elle n'était jamais montée de sa vie à l'avant, elle monte toujours à l'arrière, son rehausseur, elle a 8 ans. Donc comment imaginer qu'elle serait tout d'un coup venue ouvrir la portière de la voiture de l'Hollandais pour partir avec lui? Ça n'a pas de sens. Comme ça n'a pas de sens non plus que 4 minutes après être parti, c'est ce qu'il prétend, il lui a porté un grand coup, puis 2 ou 3, il ne sait plus très bien, il ne se souvient plus, surtout il ne sait plus pourquoi. Il n'a pas d'explication à son geste, si ce n'est que la petite fille se serait mise à chouiner. Et il lui a, c'est la seule chose qu'on puisse dire, puisque c'est la seule chose que les experts légistes ont déterminée, elle a une fracture du nez et 2 fractures de la mâchoire. Donc elle a beaucoup saigné. C'est un miracle, entre parenthèses, ça c'est une des surprises de cette audience. La petite goutte de sang qui permet de le confondre, c'est un pur miracle d'enquête. Donc en réalité, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Maître Jakubowicz comprend au bout de 5 heures, il comprend. Il est avocat, il sent cette salle. En plus, Nordal Lelandais, il ne dégage aucune émotion particulière. Quand il verse 2 ou 3 larmes, ça n'émeut personne dans la salle. Il comprend que c'est un désastre. Donc il va lui faire dire, en 2 questions, il va lui faire dire « mais enfin Nordal, il le tutoie ». Toujours un peu bizarre, mais il le tutoie. Il lui fait dire d'abord « mais Nordal, tu l'as enlevé la petite fille ?» Il répond « oui ». Ce qui n'est pas contestable. Comme a dit un assesseur, M. Lelandais, vous n'avez pas l'autorité parentale sur une petite fille de 8 ans. Donc imaginons que ce que vous dites est vrai, quand une petite fille de 8 ans vous demande de quitter les lieux dans votre voiture, vous n'êtes pas habilité à partir avec elle. Donc l'enlèvement, il est acquis. Et le meurtre, il lui a dit « mais enfin Nordal, tu lui as porté des coups, tu savais que tu l'as tué. » C'est évident que des coups comme ça, qui provoquent un minimum à 3 fractures, ce sont des coups mortels qui ne pouvaient que la tuer. Donc, il a reconnu. Mais c'est pas vraiment... On a parlé d'aveu, mais Dominique, elle a vécu des scènes de coups de théâtre au milieu d'une audience.
On va dire que c'est une reconnaissance de l'évidence. Bon, voilà. De toute façon, l'aveu, on le sait, n'est pas une preuve. Bon. C'est des moments forts à un procès. Parce que c'est vrai que c'est un procès qui dure 3 semaines. Donc il y a une théâtralisation. Il y a effectivement le coup de boutoir de la présidente des assises, des avocats des parties civiles, effectivement, entre guillemets, l'aide aussi de l'avocat de la défense. C'est ce qu'on a déjà vu, souvenons-nous, au procès de Guy Georges, où au bout d'un moment, on finit par faire dire à Guy Georges que oui, il a tué effectivement un certain nombre de femmes.
Ça est très pensé, on parle du grand théâtre de la justice quand on est aux assises.
Théâtre, je ne sais pas, dramatisation, oui, parce qu'il le faut pour qui? Il le faut éventuellement pour le verdict, il le faut pour les personnes qui sont en face, c'est-à-dire les parties civiles, qui viennent parce qu'ils veulent avoir des réponses. Alors, ils vont repartir avec un relatif soulagement, parce qu'un jour, il faudra quand même se pencher sur ces débats qui sont à la fois nécessaires et légitimes pour les victimes, mais également destructeurs. Parce que quand on leur impose les détails de la mort, lorsqu'ils acceptent d'assister, ce qui a été le cas aux dépositions des experts, ils n'en sortent pas indemnes. Donc il faut arrêter avec cette notion qui consiste à dire « le procès va vous permettre de faire le deuil ». Non, il va aussi augmenter dans une certaine mesure le traumatisme. Mais voilà, encore une fois, pour revenir à ces aveux, même si ça n'en sont pas, c'est ces moments effectivement magiques mais utiles qui sont en fait la légitimité en fait, d'un tel procès.
Puisque vous parlez de la famille de Maëlys, il y a eu un moment extrêmement fort cette semaine, c'est Colline, la sœur de Maëlys, 16 ans, qui va, et vous allez nous le raconter mieux que moi, les yeux dans les yeux interroger Nordal Lelandais.
Oui, parce qu'ils sont bouleversants, les parents de de la petite fille, vous en doutez, ils sont face à l'Hollandais. Ils l'ont vu, l'Hollandais, le soir du mariage. Il y a même cette espèce de scène incroyable où la maman de Maëlys, elle va voir Nordal, l'Hollandais, parce que sa petite fille, elle est un peu intriguée que sa petite fille consulte soit avec ce monsieur qu'elle ne connaît pas. Il n'est pas de la famille, il s'est invité à la dernière minute à ce mariage. Donc, ils sont bouleversants. Ils sont bouleversants et ils veulent des explications parce qu'ils connaissent bien le dossier. Ils savent bien que la version de l'Hollandais, elle est incohérente, invraisemblable. Elle ne colle même pas avec la propre reconstitution de l'Hollandais, puisqu'il est censé, on sait que cette petite fille, elle était couverte de sang à un moment donné, ça c'est la seule certitude qu'on a en fonction de ses fractures. On sait que grâce à ce sang, une goutte de sang est venue se nicher dans un endroit inaccessible de la voiture, c'est un miracle, et qu'elle a résisté aussi à la séance de Karcher dans le coffre, il a karchérisé son coffre le lendemain.
Et c'est Colline qui va aller au fond.
Et c'est Colline qui se tourne vers lui. Elle a 17 ans, elle se tourne vers le box. Elle est toute petite, la salle d'assises, elle n'est pas très grande. C'est un sarcophage, elle est tapissée de bois, elle est étouffante. Elle se tourne vers le box et elle lui dit « on veut des explications maintenant, maintenant ». Elle disait, parce qu'il a toujours promis, tous les jours il promet. Comme a dit l'ancien procureur de Grenoble, c'est sa spécialité, l'Hollandais, il vous répond jamais. Il vous promet toujours plus tard. Et il a une seconde, peut-être deux. Il se donne toujours du temps dans ses réponses. L'Hollandais, il a pour principe, il ne va jamais vous répondre tout de suite. Il va toujours soit faire celui qui n'a pas bien compris ce que vous disiez, pour vous faire répéter. Il gagne toujours un peu de temps, des micro-temps, des petits temps. Il a un peu hésité, et puis il a dit vendredi, et puis il n'a rien dit. Vendredi non plus. Alors peut-être le lundi à la reprise de l'audience, peut-être le week-end passé, il s'expliquera, mais... Le gros mystère étant le viol possible, il y a quand même peu de chances qu'on en sache davantage.
C'est un peu commun, j'allais dire, au profil que je signalais tout à l'heure, celui de prédateur sexuel. Vous avez rarement des aveux dès le départ, au moment de l'instruction, au moment de la garde à vue, et encore moins pendant le procès. D'où, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, cette nécessité d'avoir des procès un peu longs, où il y a cette dramatisation qui fait qu'au bout d'un moment, bah, il y a... cet aveu, cette confidence pour pouvoir justifier la nécessité du procès. Parce que Laurent l'a dit tout à l'heure, pardon, mais il n'y a aucun enjeu en ce qui concerne le verdict. J'allais dire, on le connaît d'avance.
Et on suivra évidemment cette troisième semaine de procès. Merci beaucoup à vous deux. Il reste encore beaucoup à dire et on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être venu sur le plateau. D'affaires suivantes, vous restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Édition spéciale pour le grand meeting de Valérie Pécresse. Édition spéciale avec Benjamin Dubois et Fanny Weckschneider.